Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette autre conférence de la Société Gatineau Monde. Je suis Claude Robert. On a commandé une température plus clémente pour notre conférence et on a été exaucé, comme vous pouvez voir. Comme les habitués de nos conférences le savent, c'est notre cinquième conférence depuis le mois de septembre. Donc, ce soir, c'est un événement, une soirée spéciale, comme on a indiqué, puisque ce mois-ci, février 2015, marque exactement les 10 ans de la Société Gatineau Monde. Et suite à la conférence ce soir, après la conférence et la période de questions, après peut-être la lecture d'un court texte, on va vous inviter donc à partager avec nous un gâteau et à célébrer cet événement extrêmement important. 10 ans pour une association à but non lucratif qui est basée entièrement sur le bénévolat. C'est vraiment une réalisation exceptionnelle et c'est dû à certaines personnes en particulier qu'on va nommer à la fin de la conférence. Mais on va d'abord commencer par notre activité habituelle, c'est-à-dire la tenue d'une bonne conférence ce soir. Notre conférencier ce soir, c'est M. Patrick Duguay, et la conférence s'intitule « L'économie sociale pour un nouveau modèle de développement ». Avant de présenter notre conférencier, donc je me dois, comme d'habitude, de remercier nos commanditaires et supporters, soit la Ville de Gatineau, à l'échelle du monde, la Librairie du Soleil, la Librairie Michabou, la librairie Louis Fréchette, la bouquinerie ADD, imprimerie Multi, café Tierra Coop, Sol épicerie santé, l'Alliance professionnelle et technique de la santé et des services sociaux, le bureau de la députée Nicole Turmel, le bureau de la députée Françoise Boivin, le Bloc québécois de Gatineau, et j'ajoutais peut-être même pour ce soir Miss Chocolat. Notre conférencier, M. Duguay, est un acteur de cette économie de service des gens. Il nous présentera de façon concrète comment les entreprises d'économie sociale ouvrent les perspectives pour un développement plus durable. Patrick Duguay est directeur général de la coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides depuis 2001, bachelier S sciences de l'Université de Montréal et diplômé de l'UQO. Il a participé à la fondation de nombreuses coopératives dans divers secteurs d'activité, fortement engagé dans la construction d'une économie plus humaine et centrée sur le développement des collectivités, il fait de la coopération sa pratique privilégiée. Il a été président de la Société de diversification économique de l'Outaouais, membre gouverneur de la Chambre de commerce de Gatineau, et il siège à de nombreux conseils d'administration, d'entreprises et d'organisations locales et régionales. Président du CA du chantier de l'économie sociale, il a siégé au comité des fiduciaires de la fiducie du chantier de l'économie sociale et au réseau d'investissement social du Québec. À la suite de la conférence de M. Duguay, il y aura une période de questions, bien sûr, et nous vous inviterons donc à vous approcher des micros. Mais sans plus tarder, donc, j'introduis notre conférencier de ce soir, M. Patrick Duguay.
Merci, M. Robert. On a, vous savez, je disais tout à l'heure à des amis, c'est le genre de choses qu'on accepte et quand ça arrive, on se dit « Pourquoi j'ai dit oui? » Je me rendais compte, puis on me disait « Ah, ben t'en fais souvent des conférences, tu parles tout le temps. » J'ai des collègues ici qui me disent « C'est drôle, ce soir, on paye pour venir t'entendre. Habituellement, tu nous payes pour t'écouter. » Alors, ça sera un peu la particularité de notre soirée. Mais vous savez, lorsqu'on nous invite à une conférence comme celle-là, et qu'on nous donne un thème assez large et qu'on a carte blanche pour choisir l'angle, c'est assez particulier. Premièrement, on sait que vous avez payé pour venir ici. On sent une pression pour ne pas vous décevoir. On sent tellement une pression qu'on décide de préparer une présentation PowerPoint. Vous allez voir peu de couleurs. Et on écrit pour être à la hauteur et on se rend compte que quand on vient pour l'imprimer, que ça n'imprime pas tout ce qu'on a écrit. Alors, on va y aller un peu comme ça. Hein? De toute façon, j'ai été rassuré parce qu'il y a beaucoup de gens ici que je connais déjà. Il y a mes parents. Alors, et m'aime inconditionnellement. Alors, si je me plante, c'est pas trop grave pour eux. Donc, vous savez, ce soir, je veux vous parler d'économie sociale. Je veux vous parler d'économie. Lorsqu'on entend économie sociale, je ne sais pas pourquoi, on dirait que pour les gens, ce qui résonne, c'est le mot social, comme s'ils venaient à manger le terme économie, comme si parce qu'on qualifiait cette économie-là de sociale, ou si on était en Europe, on dirait économie sociale et solidaire, bien, comme si ça venait dénaturer le terme premier, le terme de l'économie. Et à certains moments, je vais vous faire un peu ma critique de l'économie d'aujourd'hui. Et je vais la faire, puis tout de suite, je m'en excuse, dans le genre de « on va être nerveux ce soir », j'ai un de mes professeurs qui est ici, Jacques Boucher, et lui, vous aurez parlé de ça, en citant des auteurs, moi, je vais juste vous citer mon expérience. Alors, c'est comme praticien que je me présente devant vous. Alors, j'ai compris comment ça fonctionnait. Quand on accepte une invitation comme celle-là, on l'accepte d'abord un peu parce que c'est flatteur. On regarde la liste des gens qui sont passés à la Société Gatineau-Monde, hein, c'est les 10 ans aujourd'hui, puis on dit « wow, il y a des gens là-dedans que j'admire, des personnages prestigieux ». Et on se dit « bon, après 10 ans, ils ont de la difficulté peut-être à trouver ». Alors, on arrive ici. Non, M. Robert disait, hein, autant on aime l'ensemble du monde, autant on retrouve aussi des assises locales. Et donc, moi, je suis la version locale de la Société Gatineau-Monde. On n'accepte pas juste pour enfler notre ego, on accepte aussi par un certain sens des responsabilités. Moi, je considère qu'il est de ma responsabilité que de partager mon expérience. Et moi, je travaille dans la vie, je consacre ma vie à faire l'économie autrement. Et je pense qu'il est de ma responsabilité d'en parler. J'ai souvent l'occasion d'en parler à des gens du milieu du développement économique ou du développement local, à des étudiants. Mais rarement, j'ai l'occasion d'en parler à vous autres, à monsieur, madame, tout le monde, à mes amis, à mes parents, à ma famille qui ne comprennent pas toujours ce que je fais dans la vie. Mais donc, pour moi, ce soir, c'est important donc, d'être capable de livrer un peu mon expérience, un peu le sens de mon engagement. Quand le jour arrive, qu'on a déjà cherché l'angle, on espère la trouver. Et là, on écoute, on regarde dans les anciennes conférences qui ont été prononcées, puis on a des extraits, puis des résumés, et on se rend compte qu'on va venir parler d'économie sociale pas si longtemps après Claude Bellan. Parler d'économie sociale après Claude Bellan, j'allais vous faire une analogie de hockey, mais je ne connais rien au hockey. En tout cas, c'est gros. Et Claude Bellan, s'il y en a un qui, par son exemple et par son engagement professionnel, a marqué l'économie sociale, c'est bien lui. Alors aujourd'hui, on se dit, on va arriver bien humblement devant vous pour vous parler de mon sujet. Et dans la salle, vous avez un autre personnage qui est tout humble, mais Yvon Leclerc. Yvon Leclerc, c'est quelqu'un que j'ai connu il y a plusieurs années au conseil d'administration du chantier de l'économie sociale. Yvon était le président de l'Association des centres locaux de développement du Québec. Des centres qui, pendant plusieurs années, ont travaillé à développer l'économie au niveau local dans chacune des villes des MRC du Québec, et qui, à l'époque déjà, avait identifié l'économie sociale comme étant un gisement important, à la fois pour la revitalisation de communautés dévitalisées, un gisement pour la création d'emplois pour les gens dans une communauté, mais aussi un gisement pour répondre à des besoins auxquels le marché tentait même pas de répondre parce qu'il n'y avait pas trouvé de rentabilité. Alors, moi, j'étais content qu'Yvon soit dans la salle Et d'ailleurs, vous allez voir que ma présentation va être largement inspirée d'Yvon parce qu'il m'a dit il y a longtemps, tu devrais amorcer un processus de récit de vie. Alors, ma présentation ce soir ne sera pas un récit de vie, j'avais à peine une heure, mais certainement un survol de certaines expériences que j'ai pu acquérir, de certaines observations que j'ai pu faire, et je suis heureux de vous les livrer ce soir. Donc, moi, je vais m'adresser à vous comme un citoyen, comme une personne engagée, appartenant à plusieurs groupes, à une collectivité, bien ancrée dans une communauté. Hein. Moi, j'habite ici au centre-ville de Hull, dans la ville de Gatineau. Je m'y engage et je vais vous parler de moi et de mon engagement en économie sociale. Parce que je suis habitué de parler à des gens qui s'y connaissent un peu, habituellement, je vais utiliser des présentations comme celle-là. Pour dire donc, à la base, lorsqu'on parle d'économie sociale, juste pour qu'on puisse s'entendre pour le reste du temps, on va parler de deux types d'organisations, des coopératives et des associations. Les associations, souvent, on va les nommer autrement ici, on va dire des organisations à but non lucratif ou des organisations sans but lucratif. C'est exactement la même affaire. Mais c'est des associations, donc, et une coopérative, c'est aussi une association de personnes qui décident d'unir leurs forces pour poursuivre une mission commune, pour se donner des moyens pour atteindre des objectifs en commun. Et qu'on soit une coopérative ou une association, on a des principes qui nous unissent. On a des petites caractéristiques qui nous distinguent, mais sont vraiment, à mon avis, plutôt cosmétiques. Ce qui nous unit, c'est les grands principes que sont ceux de l'économie sociale, dont les plus importants, à mon sens, c'est d'abord la propriété collective. Contrairement à l'entreprise privée, où c'est un détenteur de capitaux qui peut dire « c'est mon entreprise », bien, dans le cas de l'entreprise coopérative ou l'entreprise associative, l'entreprise d'économie sociale, bien, c'est l'ensemble des membres qui peuvent dire « c'est mon entreprise ». Chacun la détient, pas individuellement, mais collectivement. Et cette propriété collective-là va changer beaucoup de choses. Et quand la CLDQ, quand les gens disent « il est important d'utiliser l'économie sociale pour assurer le développement de nos collectivités », bien, c'est que c'est des modes de propriété qui sont extrêmement durables. Vous savez, on est dans une période où on a vu la délocalisation pendant une période de plusieurs de nos entreprises. Hein, on avait une entreprise qui se développait bien, rachetée par des Américains, déménage la production. On a eu une expérience, moi je me rappellerai toujours, l'expérience de l'usine de Alstom. Un grand centre de soudure industrielle qui était dans le parc industriel à Hull, près de l'autoroute 50. Bien, l'usine Alstom, multinationale française, un jour a décidé de fermer son usine, pas parce que ça ne fonctionnait pas bien, mais parce que ses plans avaient changé et ils ont démantelé les outils et les ont envoyés dans d'autres usines, dont des usines américaines. Alors, on assiste à ça. Une coopérative ou une association, ça ne peut pas se délocaliser. Ça appartient aux personnes qui y travaillent. Et donc, à ce moment-là, il faudrait déménager bien du monde et ça deviendrait certainement moins intéressant que juste de prendre des outils, des appareils. Alors, un des avantages de l'entreprise d'économie sociale, c'est qu'elle est ancrée dans son milieu. Ça ne se bouge pas. Ça se vend bien mal, en plus. Ceux qui ont essayé, puis il y en a, hein? Il y en a des gens du privé qui s'investissaient dans l'entreprise d'économie sociale et ils disaient « Ah, c'est devenu intéressant, peut-être qu'on pourrait mettre ça en vente. » Alors, ils ont eu des problèmes aussi. La gestion démocratique qui va avec la propriété collective, donc ça n'appartient pas à une personne et ça ne se gérera pas comme une société à capital action où chacun va voter en fonction du nombre d'actions qu'il détient dans l'entreprise. C'est le principe « un membre, un vote ». Alors, chacune des personnes qui est membre de l'association ou de la coopérative détient un pouvoir égal, peu importe le montant d'argent qu'il a investi dans l'entreprise. Alors, ce principe-là est aussi, vient renforcer l'identité collective de l'entreprise. Elle a pour finalité de servir ses membres. Là, je voulais que le PowerPoint soit beau parce que ça devrait être ses membres ou la collectivité. Mais ça débalançait toute ma diapo. Bien, servir ses membres, ça veut dire pas servir mon client d'abord. Hein. L'entreprise se met en place avec comme premier objectif de servir ses membres. On a des coopératives de travail. Il y a Martin qui vient de sortir, qui est d'une coopérative de travail d'Ottawa, ceux qui font le chocolat Camino. Vous connaissez le chocolat Camino? Est-ce qu'il y en a qui ne le connaissent pas? Que tu ne connais pas? Non, bien, regarde, je vais te donner la barre, elle est pour toi. C'était la bonne réponse, je ne connais pas Camino. Alors, Camino, c'est des travailleurs qui, ensemble, possèdent une entreprise qui fait de l'importation de cacao équitable, qui fait la transformation. La transformation est faite en Suisse et qui vend des produits, des barres de chocolat, du cacao, du sucre, toutes sortes de produits à la grandeur du Canada. Alors, c'est une coopérative qui est la propriété de ses travailleurs. Alors, l'entreprise, quand on dit servir ses membres, bien, dans leur cas, c'est de s'organiser pour fournir du travail à ses membres travailleurs. Et fournir du travail à ses membres travailleurs dans leur domaine, dans le domaine qui les intéresse. Et le domaine qui les intéresse, c'est le commerce équitable et biologique. Alors, leurs produits vont dans ce sens-là. Alors, c'est le sens de l'entreprise d'économie sociale. Primauté de la personne et du travail. Vous savez, une coopérative et une association, ce n'est pas des entreprises qui sont vouées à perdre de l'argent. On met l'entreprise au service des personnes, mais il faut que l'entreprise puisse servir les personnes. Alors, l'entreprise coopérative, ce n'est pas une entreprise pauvre. L'association, ce n'est pas une entreprise pauvre non plus. Mais quand elle va réaliser des excédents, parce que dans ces entreprises-là, le profit n'existe pas, bien, l'excédent peut être réparti. Souvent, il va être réinvesti en entier dans l'entreprise. La majorité du temps, c'est ce qui arrive. Mais dans certaines entreprises qui ont trop d'excédents, bien, on va en retourner aux membres. Est-ce que c'est un dividende, ça? Qu'est-ce que c'est un dividende? C'est lorsque j'ai un montant d'argent et qu'en fonction de ce montant d'argent-là, je vais rémunérer une personne. Dans le cas d'une coopérative ou d'une association, une association ne peut pas le faire, mais une coopérative, quand je retourne de l'argent, je retourne ce qu'on appelait un trop-perçu. Je vais vous dire, est-ce qu'il y a des membres des caisses des jardins ici? Quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui ont eu des ristournes. Hein? Envoyez pas une lettre de remerciement à la caisse. Hein? Une ristourne, ce que c'est la redistribution d'un trop-perçu. Ça veut dire, je vous ai chargé trop d'intérêts, je vous ai chargé trop de frais au cours de l'année pour mes besoins. Une fois que j'ai eu payé tout ce que j'ai, mes employés, mes édifices, mon infrastructure, et voilà, et je vais vous retourner, donc, ce qui dépasse. Une fois que j'ai géré de façon prudente, il m'en reste encore, alors je vous le remets. Donc, ce n'est pas un cadeau qui est fait. Et idéalement, la ristourne devrait être minimale, parce que je devrais vous charger les frais raisonnables et nécessaires. Des fois, on a des petits problèmes d'évaluation et on aime bien se retourner des gros chèques. C'est toujours mieux ça que de ne pas l'avoir. Autonomie de gestion par rapport à l'État. Ça aussi, un des grands mythes, c'est des entreprises publiques déguisées. Ben non, c'est pour être une entreprise d'économie sociale, c'est des entreprises qui prennent leurs décisions par elles-mêmes, qui sont gérés par des conseils d'administration, qui rendent des comptes à des membres lors d'assemblées générales annuelles, et donc qui ont cette latitude complète de prendre leurs propres décisions librement. Librement dans le cadre de ce que la réglementation exige. Hein. Ce n'est pas des entreprises qui ne sont pas soumises aux mêmes lois que les autres, mais elles prennent leurs décisions pour elles-mêmes. C'est un peu la définition qu'on en a. Un autre élément dont je voulais vous parler ce soir, c'est lorsque je parle de coopératives et d'associations, d'économie sociale, souvent on me dit « mais c'est marginal ». Bien, marginal, au Québec, c'est 7000 entreprises collectives. Et si on départageait, on dirait que c'est 3000 coopératives et 4000 organismes à but non lucratif. Alors, pour la marginalité, on repassera. Hein? Et le poids dans l'économie, on parle de 125 000 emplois. On est quand même dans quelque chose d'assez important pour faire une différence dans notre économie. 17 milliards en chiffre d'affaires et 8 % du PIB. Et ça, c'est une évaluation qu'on a faite en 2004. Et depuis, s'il y a un des secteurs de l'économie qui est en progression croissante, c'est celui de l'économie sociale. Vous savez, en Outaouais, on se désole souvent de notre faible taux d'entrepreneurship. Vous avez déjà entendu ça, hein? On n'a pas beaucoup d'entrepreneurs ici. Tout le monde est des fonctionnaires. L'Outaouais est dans les premiers rangs au niveau de l'entrepreneuriat collectif. On est une des régions qui recourt le plus à la coopérative ou à l'association pour entreprendre, pour répondre à des besoins. Alors, on peut aussi se rassurer de ces faits-là. L'économie sociale, c'est aussi des organisations, des entreprises, mais c'est un grand mouvement. Rapidement, on a commencé à parler d'économie sociale au Québec, à utiliser ce vocable-là, en 1996. 1996, période de crise importante des finances publiques, période de crise de l'emploi. On ne sait pas ce que ça veut dire aujourd'hui, hein? On disait bien en 96, une crise des finances publiques. On est loin de ça maintenant. Le premier ministre de l'époque, Lucien Bouchard, avait convoqué un grand sommet. Il avait convoqué les grandes entreprises, les syndicats, les mouvements sociaux, le mouvement des femmes, les jeunes, à s'asseoir autour d'une même table et à chercher ensemble des solutions. En disant, je ne vais pas vous les imposer, je ne vais pas mettre le bâillon, on va réfléchir ensemble et identifier des avenues de sortie de crise. Et lors de ce sommet-là, dans les travaux préparatoires, le premier ministre avait identifié un certain nombre de comités de travail et un portait sur l'économie sociale. Bien, lorsqu'on a terminé ce grand sommet-là, il y a eu deux grandes idées qui en sont ressorties. Il y en a plusieurs qui sont essayées, mais les deux qui ont passé la rampe et l'épreuve du temps, ça a été le déficit zéro. On sait encore aujourd'hui que c'est toujours à l'ordre du jour. Hein? Et l'économie sociale. C'est les deux grands secteurs, les deux grandes idées qui étaient proposées pour qu'on puisse soutenir notre développement économique. À travers ce sommet-là, se sont mis en place des initiatives d'entreprises collectives extrêmement importantes, que sont notamment la plus connue, les centres de la petite enfance. Souvent, les gens vont dire, oui, mais les centres de la petite enfance, je me suis ostiné avec Roch Cholette à son émission il y a quelques mois. Il dit, oui, non, mais c'est des entreprises publiques, c'est l'État qui paye. Ben non, c'est pas que l'État qui paye, les parents payent aussi. Oui, non, mais c'est l'État qui leur dit quoi faire. Mais non, c'est la propriété de membres qui sont organisés en conseil d'administration, qui choisissent les programmes pédagogiques. Bien oui, ils respectent des lois, des normes puis des règles parce que c'est des enfants. On est dans un secteur où on doit protéger particulièrement les gens qui l'utilisent, le service. Mais il reste que c'est le plus grand réseau d'économie sociale. Ça a été 1200 entreprises collectives qui sont nées du sommet. Vous savez, au moment, dans la mise en place de ce grand réseau-là, on disait il y a plus d'emplois dans les centres de la petite enfance qu'il y en avait quand on a fait les grands barrages de la baie James. C'est quand même pas rien. Et on a aussi contribué énormément à améliorer les conditions de travail des femmes qui gardaient les enfants. Vous savez, on est passé d'une époque où on payait mieux un gardien de zoo qui s'occupait des animaux qu'une gardienne qui s'occupait des enfants. C'est encore un peu le cas. Mais on a fait de grands progrès et on a fait des progrès parce que ces entreprises-là se sont organisées, se sont structurées. Autrefois, on était soit dans le travail au noir ou on était dans la garde populaire organisée dans les quartiers comme on pouvait pour répondre à des besoins de notre milieu. Mais à partir du moment où on a organisé ce grand réseau-là, bien, on a connu une croissance incroyable en qualité, en quantité. On a permis, souvent c'était les femmes qui écopaient, mais on a permis à beaucoup de femmes d'intégrer le marché du travail. Alors, ça a été un apport extrêmement important pour le gouvernement du Québec. Un autre secteur dans lequel on a été particulièrement performant en économie sociale, c'est les entreprises d'aide à domicile. Et de plus en plus, on va devoir y recourir parce qu'on a un problème, le vieillissement de la population. On a de moins en moins de familles qui veulent prendre papa-maman à la maison, puis, et papa-maman, ça leur tente de moins en moins d'aller vivre chez Fiston, puis avoir l'impression d'être la cinquième roue du carrosse. Pas vous autres, papa-maman. Mais, donc, on a pris un grand réseau. On a créé un grand réseau à partir d'une situation bien particulière. Les services d'aide à domicile au Québec, il en existait, mais étaient complètement du travail au noir. Et pourquoi c'était un problème? Bien, pour l'État, c'était un problème parce que c'est des revenus fiscaux qui nous échappaient. Mais ce n'était pas juste un problème pour l'État. C'était un problème particulièrement, c'est encore un secteur où c'est beaucoup des femmes qui travaillent. Bien, c'est un problème lorsque je suis un travailleur au noir dans un métier qui est physiquement difficile, exigeant et qui m'expose à me blesser et que je n'ai pas accès à aucune protection sociale. C'est un problème parce que c'est des femmes et que lorsque je tombe enceinte, je n'ai pas accès à aucun congé de maternité parce que j'existe nulle part. Et c'était aussi un problème pour les personnes âgées qui utilisaient les services d'une travailleuse au noir, qui, lorsqu'elle tombait malade, j'avais plus de service du jour au lendemain. Qui, lorsque la personne qui travaillait chez moi faisait un dégât, ben, j'avais pas d'assurance. J'avais pas de référence pour, et c'est quelque chose aussi de laisser rentrer quelqu'un dans nos affaires. Alors, tout le grand réseau des entreprises d'aide à domicile, ça a été augmenter la qualité des services rendus aux personnes âgées, les pérenniser, donc pas quelqu'un qui vient pendant quelques mois, qui tombe malade, puis que je suis obligé d'en trouver un autre. Ça a été augmenter la qualité des emplois pour les femmes, et l'État paye une partie, parce que lorsque je demeure dans mon domicile, plutôt que d'aller trop rapidement dans un centre un CHSLD, une résidence de personnes âgées, ben j'augmente aussi ma qualité de vie et j'ai des bénéfices personnels extrêmement importants. Alors, cette dimension-là dans le développement de notre économie sociale, ça a été une contribution à la fois pour les finances publiques et à la fois pour l'État. Juste un petit exemple, la plus grande entreprise, la deuxième plus grande entreprise de toute la région de la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, c'est une entreprise d'aide à domicile qui s'appelle Multiservice, qui compte 250 employés. Est-ce qu'on a une contribution au développement économique du Québec? Je crois que oui. Moi, je suis quelqu'un de... Je voulais être sûr qu'on parle de ce qui vous intéresse vraiment. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. Moi, toute ma vie, mes parents le savent, ils vous en parleront tantôt au café, mais j'ai toujours été extrêmement préoccupé, puis même bouleversé quand je voyais du mal autour de moi. Je viens d'une bonne famille, on a toujours eu ce dont on avait besoin, mais assez proche de nous, il y avait des gens qui n'avaient pas cette chance-là. Et j'ai toujours cherché à apporter ma petite contribution à mon monde pour à la fois soulager les souffrances des autres, amener un peu plus de justice sociale. Et je me suis beaucoup préoccupé par les inégalités qui frappent ceux qui m'entourent. Et un des éléments, une des obsessions que j'ai dans la vie, c'est à quel point on confond la fin et les moyens. Qu'est-ce qu'on est en train de chercher de faire ensemble? Et lorsque je pense à l'économie sociale, c'est ce à quoi je pense. Pour moi, j'ai toujours été surpris d'à quel point on est soumis à l'économie. Comme si l'économie vivait tout seul de son côté. On a parlé de l'économie comme si elle était régie par des lois naturelles. On a oublié quelque part que l'économie, c'est un grand nombre de conventions. C'est un construit humain, complètement. Et même, on pourrait retracer le développement de l'économie. Et j'ai fait l'exercice, parce que je ne suis pas un économiste, je suis pas comme le professeur Boucher, je voulais essayer de me tester moi-même. Et je suis allé voir, lorsqu'on arrive à commencer à parler, et j'ai même fait la recherche pour savoir d'où venait le terme économie. Est-ce qu'il y en a qui le savent? Exactement. Et je ne vous le nommerai pas en grec. Mais la traduction littérale du grec, c'est l'ordre dans la maison. Alors, c'est une façon d'ordonner les rapports entre les gens. Et c'est apparu principalement ce concept d'économie ou de rapport de monétaire. C'est venu pour mettre de l'ordre un peu dans les échanges qu'on avait avec les autres. À un moment donné, on travaillait beaucoup sur le troc. À partir du moment où les métiers ou le travail de chacun s'est spécialisé, on avait ce besoin-là parce que c'est pas quand j'ai besoin d'un poulet, mon voisin qui produit le poulet, il n'a pas toujours besoin, lui, d'avoir un matelas. Alors, donc, on devait trouver une façon un peu plus pratique de s'entreposer les choses. Alors, donc, on a établi un système d'échange comme ça. C'est l'ingéniosité humaine à son meilleur. Et on a vu à quel point, tranquillement, nos échanges sont devenus plus intensifs, se sont complexifiés, se sont intensifiés. Et donc, aujourd'hui, on est rendu avec une économie dont souvent, j'ai l'impression qu'on a perdu le contrôle. Il suffit de lire l'actualité actuellement, là, et on se demande bien où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Et moi, je vous dis, pour moi, c'est une grande préoccupation. Parce que comme l'être humain est au cœur de cette économie-là, ben moi, je préférais qu'il subisse moins les contre-coups. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde notre modèle de développement économique, ben on peut facilement dire, et ils sont plusieurs de ces économistes que je peux lire, qui constate que notre modèle de développement a atteint ses limites. Atteint ses limites parce qu'on a atteint des sommets d'inégalité. C'est pas moi qui le dis. Vous savez, la dernière que j'ai entendu le dire, c'est Christine Lagarde. Christine Lagarde, on n'est pas dans la grande gauchiste. Présidente du FMI. Le Fonds monétaire international. Alors, cette institution-là là, qui demande, entre autres, à la Grèce, à l'Espagne, à l'Italie, d'adopter des politiques d'austérité. Nous autres, ils n'ont pas besoin de nous le demander, on le fait spontanément. Mais donc, Christine Lagarde dit, ce qui menace le plus la stabilité mondiale, c'est les inégalités. C'est le fait que plusieurs de ceux qui sont à côté de nous autres n'ont pas les moyens de subvenir à leurs propres besoins. Quand même préoccupant, quand Christine nous dit ça, moi, ça me fait réfléchir. Et moi non plus, je ne suis pas un anarchiste ou un communiste, pas que je sache. Mais en économie sociale, on s'est certainement attaqué pour reprendre une partie du contrôle, puis on ne change pas le monde. Hein. On n'a pas eu beaucoup d'influence sur le FMI actuellement, mais l'économie sociale qui a 8% du PIB au Québec, ben, si on le regardait à l'échelle internationale, on serait quand même beaucoup plus large que ça. Et Quels sont ces éléments d'espoir qu'on peut avoir et la contribution de notre économie collective, associative à l'économie mondiale? Bien, beaucoup d'économistes reconnaissent aujourd'hui qu'on vit dans une économie plurielle. Une économie plurielle, qu'est-ce que c'est? Et c'est drôle, hein, parce que, d'ailleurs, Claude Bellin m'inspirait beaucoup parce qu'il disait, avant, on vivait dans des sociétés, maintenant, on vit dans des économies. Et quand on y pense, hein, on est souvent dans ce mode-là, on n'a qu'à penser à l'économie de l'Union européenne actuellement, qui est pas mal sur la sellette. Et donc, on a souvent eu l'impression que l'économie, c'était un bloc monolithique, hein, où tout fonctionnait partout de la même façon pour tout le monde. Mais quand on la regarde plus attentivement, on se rend compte qu'il y a des acteurs différents dans cette économie-là, qu'il y a des valeurs différentes et qu'il y a des objectifs différents. Et cette économie-là, qu'on nomme plurielle, ben, elle est composée de trois grands secteurs. Hein, si on le regarde là, au plan macro, on va parler de l'économie, celle qu'on connaît le plus, l'économie privée, hein, l'entreprise privée, celle qui procède d'une logique tout à fait défendable d'accumulation du capital. Alors moi, je suis propriétaire d'une entreprise, ma propriété se mesure au nombre d'actions que j'ai payées, un certain nombre. Et d'ailleurs, pas mal de monde ici doivent avoir des actions d'entreprise qu'on essaye de faire fructifier pour essayer d'avoir une retraite un tant soit peu confortable. Alors, cette économie privée-là, c'est celle qu'on voit le plus. Qu'on le voit dans la grande entreprise ou qu'on le voit dans la petite entreprise, celle qui nous permet d'aller acheter notre pain ou notre lait dans notre quartier, celle qui nous donne accès à notre petit restaurant du coin. Alors, c'est une logique qui se défend, mais c'est la logique qui prédomine depuis de nombreuses années et celle qu'on connaît le mieux. C'est une logique, cependant, qui est soumise à des transformations importantes. Et une de ces transformations-là, c'est la financiarisation. Moi, j'ai été assez surpris une journée dans une conférence où j'assistais. On me dit, on parlait de l'économie réelle. Bon. Je connaissais mal, hein, ou pas du tout, l'économie irréelle. Là, rêver. Je ne savais pas de quoi on parlait. Mais on parlait de cette économie financière. Cette économie qui ne produit pas, et d'ailleurs qui ne doit pas produire. Hein, vous savez, une compagnie comme Nike, qu'est-ce que ça produit, Nike? Des souliers? Ben non. Avant, ça produisait des souliers. Mais maintenant qu'ils sont plus riches pourquoi? Parce qu'ils ne produisent rien. Alors, il y en a qui se spécialisent dans la production, d'autres qui se spécialisent dans la vente. Alors, eux, on dit plutôt qu'être dans la dépense, on va être dans les revenus. Alors, ce qu'on produit, nous, c'est qu'on gère une marque. Et cette marque-là, on va la faire fructifier. Alors, on va acheter des souliers, puis on va les payer, hein, à des entreprises riches en Chine, au Bangladesh, en Malaisie. Alors, on va acheter ces produits-là. Et nous, on va investir énormément de publicité pour que la marque soit tellement connue qu'on puisse vendre nos souliers très chers en les associant à des vedettes de sport. Et c'est de cette façon-là qu'on va contribuer au mieux-être collectif. Alors, donc, c'est l'économie plus financiarisée. Le secteur bancaire, hein, vous savez, les plus grandes transactions économiques qui se font, les plus grands flux économiques, ils ne se font pas par les containers, hein. Ils se font par les flux financiers qui passent d'un pays à l'autre, qui passent d'un portefeuille à l'autre, et les plus chanceux passent par HSBC en Suisse. Mais ça, on m'a recommandé de ne pas en parler. L'autre grand volet de l'économie qu'on méconnaît aussi souvent, c'est l'économie publique. Hein. La simple action du gouvernement, lorsqu'on voit le ministre Barrette, hein, il gère quoi le ministre Barrette? Il gère la moitié du budget du Québec, la moitié des dépenses de l'État. Et quand je dis « il les gère personnellement ». Alors, c'est une injection de capitaux extrêmement importante. Le nombre de personnes, puis dans l'Outaouais, on le sait bien, l'économie publique, l'action gouvernementale fait vivre de nombreuses personnes. Moi-même, je suis enfant d'un fonctionnaire et j'ai bien vécu de ça. Puis mon père travaillait très fort, puis il n'apprécie pas toute blague que je peux faire là-dessus. Mais il y a une logique particulière à l'économie publique qui n'est pas la même que celle que pour l'économie privée. On n'est pas dans une logique d'accumulation, on est dans une logique du bien commun. Des fois un peu discutable selon les idéologies, mais on cherche de cette façon-là, par notre action économique, par nos ministères, par les hôpitaux, les écoles qu'on gère, on cherche à rendre un certain nombre de services qu'on juge essentiels pour la population. Et en plus, on va même avoir des entreprises publiques. Alors là, on n'est même plus juste dans l'action gouvernementale propre. On va être dans certains secteurs de l'économie où on dit, par choix, on va s'investir dans ce moment-là. Hydro-Québec est un bon exemple. Alors, un bien collectif qui est notre richesse hydroélectrique, bien, qu'on va gérer nous-mêmes et dont les bénéfices vont servir à l'ensemble de la population du Québec. Et ce qui fait qu'on a des impôts aussi bas. Mais de plus en plus, le secteur public est soumis à cette financiarisation de l'économie. Vous savez, lorsqu'on élit un gouvernement, il y a un autre groupe qu'on n'élit jamais, qui est les agences de cotation. Et lorsque un gouvernement commence à avoir des idées que peut-être on pourrait faire tel projet ou faire tel geste fiscal, qu'est-ce qui vient baliser tout ça? C'est la réaction des agences de cotation. On va dire, on a tellement peur de ce que Standard & Poor's pourrait bien dire de nos pratiques. Alors donc, la financiarisation de l'économie qui est aussi présente dans l'économie privée a des incidences extrêmement importantes. Il y en a qui disent même qu'on est quasiment dans un supra-gouvernement. Hein, qui est au-dessus de tout le monde, là? Mais les agences de cotation y ont des influences extrêmement importantes parce qu'ils vont déterminer les taux d'intérêt que je vais avoir sur mes emprunts. Alors donc, on pense qu'on a cette liberté de démocratie, mais tout à coup, on voit que l'économie, cette phase de l'économie financière, ben, c'est abroger un certain nombre de droits sur nous. Et finalement, le secteur le moins connu, sauf pour moi, l'économie sociale, l'économie solidaire, l'économie communautaire, collaborative, tout qualificatif que vous voudrez qui dit que c'est géré et c'est détenu par des personnes, ben, c'est un peu cette économie qui est en émergence, mais plutôt qui est en forte croissance, qui est dans une logique différente, une logique de bien collectif. On n'est pas dans le bien commun comme l'économie publique, hein, où on cherche pour l'ensemble d'un pays. On regarde une collectivité, les membres d'un groupe, les membres d'une association, les membres d'une coopérative. Alors, on va chercher collectivement à mettre ensemble nos ressources et à profiter ensemble des bénéfices de cette entreprise-là. Alors, ils cherchent le service d'une collectivité. C'est donc un secteur qui, tant qu'à moi, souffre d'un principal mal, qui est celui de la méconnaissance. Alors, c'est dans ce secteur-là que j'ai choisi de m'investir il y a plusieurs années. Et j'ai choisi notamment pour une raison. Moi, j'ai différentes maladies, j'ai différentes souffrances. Et la plus grande, c'est je souffre d'impuissance. Ce soir, quand je vais retourner à la maison, je vais écouter le téléjournal. Et c'est là que mon impuissance apparaît. lorsque je regarde la misère autour, la souffrance qu'il y a, j'ai beaucoup de difficultés, moi, à entendre parler de Boko Haram, puis de rester stoïque, ou entendre parler de ce qui se passe en Afrique. J'ai beaucoup de difficultés comme ça. Et même plus proche de nous, de voir dans des quartiers la misère qui s'installe. Alors, ce sentiment d'impuissance-là, qui nous monte à la gorge devant les injustices qu'on connaît, moi, j'ai décidé un jour de m'y attaquer. Et j'ai longtemps cherché les façons de lutter contre mon sentiment d'impuissance. Puis je suis certain que je ne suis pas le seul ici. Vous êtes certainement plusieurs à vous sentir bien impuissant. Et généralement, je dirais la plus grande difficulté que j'ai, c'est lorsque je vais penser à l'ensemble des problèmes, bien là, je me sens extrêmement impuissant. Mais dans ma vie, moi, j'ai décidé de lutter contre cette impuissance-là en posant des gestes. Des gestes qui vont me permettre de m'en débarrasser petit à petit. Puis au moins d'avoir l'impression d'être vivant et de poser ma pierre, de contribuer à changer le monde un peu. Et vous allez me permettre de vous raconter une histoire. Une histoire qui, pour moi, est une illustration puissante de cette lutte à l'impuissance. Et c'est une histoire qui commence il y a quelques années, en 2006. Caroline a dit, oh, l'ai déjà entendu celle-là. Peut-être pas. En 2006, on apprenait que la laiterie Château de Buckingham fermait ses portes. Étrangement, pas parce qu'elle n'était pas rentable. D'ailleurs, tantôt, quand on parlait de l'économie financière, vous remarquerez, j'avais déjà gardé une coupure de presse qui disait, c'était GM coupe 3 000 emplois, l'action fait un bond. Il y a de quoi que je ne comprends vraiment pas là-dedans. C'était un peu la même chose qui nous est arrivée ici. Alors, une entreprise, une multinationale, décide d'acquérir la laiterie Château avec un seul objectif, celui de la fermer. En fait, l'entreprise achetait le marché. Et après 63 ans, on allait voir perdre cette laiterie-là. Château, que c'est bon, ceux qui ont grandi en Outaouais, on a tous bu ce lait-là. Et c'est 35 emplois qu'on perdait dans notre région. Peut-être pas si gros que ça, 35 emplois, mais c'était 35 emplois encore, parce qu'on en avait perdu d'autres. Et s'il y a un secteur économique dans lequel on n'est pas très fort en Outaouais, c'est bien le secteur agroalimentaire. On avait déjà eu une grande fromagerie qui a fermé, on avait eu un encan fermé aussi. Et là, on avait notre outil de transformation laitière qui fermait ses portes. On était, tout le monde était triste. Mais moi, j'ai été tanné d'être triste. Et je me disais, est-ce que encore une fois, on va assister à une fermeture comme celle-là que j'appelle injustifiée et on va rester les bras croisés à s'éponger l'œil? J'ai décidé de faire quelques appels. Dans les premiers que j'ai appelés, c'est un bon ami à moi, Norm MacMillan. Et Norm, je ne vous dirai pas ce qu'il m'a dit parce qu'on ne peut pas sacrer en public. Mais il m'a dit bien candidement qu'il n'y avait rien qu'on pouvait faire. Voyons, Pat, c'est un deal privé. C'est le marché. Ah! Alors le sort en était jeté. Le marché avait décidé qu'on allait perdre notre laiterie. Bon, j'ai des amis qui connaissent peut-être moins le marché. Un de ces amis-là, vous le voyez, dans le temps, il avait plus de cheveux frisés. Aujourd'hui, il y a son bureau pas loin d'ici. Maxime Pedneau-Jobin. Maxime qui habite pas loin de la laiterie de l'Outaouais, qui a grandi à Buckingham, qui est attaché à Buckingham comme pas un. En y parlant, je dis, c'est vraiment ça qui nous attend? On va regarder encore une fois une entreprise de chez nous fermer les portes, puis on va juste trouver ça triste. Alors, avec Maxime, on a décidé d'organiser une conférence de presse qu'on a eue à la salle de presse ici. Et c'est pas la bonne photo de cette journée-là. J'ai tout perdu mes photos. Je fais pas mes sauvegardes. Alors, on a décidé d'interpeller les gens, de lancer un message et de savoir est-ce qu'il y aurait un appétit de la région de l'Outaouais pour relancer une laiterie chez nous. Est-ce qu'on pouvait se mobiliser pour la garder, la laiterie Château? Et vraiment, on a eu une réponse assez intéressante. Lors de cette conférence de presse-là, il y a un autre de nos amis, qui n'était pas notre ami à l'époque, mais qui l'est devenu depuis, Antoine Normand, un jeune homme d'affaires. On était tous jeunes, on est tous à peu près des mêmes âges, hein, 45 ans autour. Antoine un peu plus jeune que nous, ça paraît dans la maturité. Mais ensemble, on s'est dit, il faut un jour mettre notre pied à terre. Et c'est cette journée-là qu'on a décidé de le faire. Et je peux vous dire, on n'avait vraiment aucune idée. À la conférence de presse, là, on lançait un appel, mais on ne savait vraiment pas où est-ce que ça allait nous mener. Cette journée-là, on a décidé de travailler, de lancer la perche aux gens de l'Outaouais et de leur demander, est-ce que vous seriez prêts à vous engager à consommer du lait d'une laiterie de chez nous? Et je peux vous dire, on en a fait des efforts. On avait, par en arrière, à partir de ce moment-là, travaillé pour essayer de racheter l'usine qui existait à Buckingham. Bien, la multinationale qui l'a achetée a remis 50 000 piastres de plus pour ajouter une clause à son contrat de vente qui interdisait qu'elle nous soit vendue, qu'elle soit vendue pour de la production laitière. Ils ont perdu cet argent-là, que voulez-vous? On a même essayé de faire, on a parlé avec les travailleurs qui étaient là. Et c'était pas drôle, cette rencontre-là. Moi, je les ai rencontrés, c'est moi, avec leur président de syndicat, dans les bureaux de la FTQ sur Saint-Joseph. Et il y a des gens là-dedans, là, qui travaillaient là, c'était leur premier emploi. Et des premiers emplois qui avaient commencé à occuper à 14 ans. Alors, des gens de Buckingham qui travaillaient à la laiterie depuis toujours et qui disaient, comment t'as fait pour rentrer là à 14 ans? Parce que mon père travaillait là. Alors, je peux vous dire que ces emplois-là, et c'est des gens qui aimaient travailler dans l'industrie laitière, pour eux autres, ça avait un sens. Mais, pour le marché, c'était pas important. Les gens, ce qu'ils nous disaient, Norm puis compagnie, ils nous disaient tout, c'est un deal privé, puis en plus, on n'a pas soif. Hein. Il y en avait du lait sur nos tablettes. Et on avait même l'impression qu'on avait une diversité de produits. Hein. Plusieurs entreprises qui nous offraient leurs produits laitiers. On a Siltes, on a Natrel, on a Québon. Bien, tout ça, c'est la même entreprise. Et c'est pas parce qu'on est une coopérative qu'on est parfait. Je suis bien triste de vous le dire, cette multinationale-là, c'est une coopérative, c'est Agropur. Alors, on a commencé à lancer notre perche aux gens de l'Outaouais et on les a invités à s'engager à consommer du lait d'une laiterie en Outaouais. Dans ces premiers moments-là, il y a Claudine Lalonde qui est là, qui travaille avec moi. Claudine, c'est celle qui a travaillé avec nous autres pour monter ce site web-là avec une autre coop qui a changé de nom depuis, mais qui s'appelle Coloc. Et on était plein de rêves. Hein? On voulait, parce que tout le monde nous disait, comme les tablettes sont pleines de lait, vous n'aurez jamais de place pour vendre votre lait. On a essayé et on cherchait à avoir un engagement des citoyens de l'Outaouais à consommer 200 000 litres de lait. On avait dit si les gens étaient capables de s'engager pour 200 000 litres de lait par année, on serait vraiment en business, on pourrait démontrer qu'il y avait de la place dans le marché. Alors, on s'était dit, on veut ça vraiment. Peut-être qu'en deux semaines, un mois, on pourrait aller chercher ça. Alors, après 24 heures, quand on a eu notre 200 000 litres de lait d'engagement, on a vu là un engouement qu'on n'avait jamais prévu. Puis je vous dirai tantôt, un peu pourquoi je pense qu'on a eu un tel engouement. On a eu un animateur de radio, Daniel Séguin, qui était le Morning Man à l'époque, qui parlait de la laiterie de l'Outaouais tous les matins, qui incitait les gens à s'engager pour la laiterie. Avec Antoine, puis nous autres à CDA, la coopérative de développement régional, on avait imaginé de créer une coopérative de consommateurs. Drôle d'idée, des consommateurs d'un produit qui n'existait pas encore. Bien, on a lancé un appel. On pensait que ce serait les gens d'affaires de la région qui réagiraient puis qui s'engageraient. On disait, on vend des parts à 200 $. Bien, on a eu 700 membres qui ont payé 200 $ et ce n'était pas des gens d'affaires. C'était monsieur, madame, tout le monde et beaucoup avaient une préoccupation environnementale. Ils disaient, ça a-tu de l'allure? Vous savez, du lait, à 80 % c'est de l'eau. Bien, le fait que Agropur prenne le lait des vaches de l'Outaouais, l'amène à Montréal, hein, parce que c'est à Montréal leur usine, pour le transformer, c'est-à-dire le pasteuriser, l'homogénéiser, le remettre dans des bouteilles, puis nous le renvoyer ici, c'était 70 000 km de camionnage inutile à transporter de l'eau. Alors qu'on est préoccupé du développement durable, on trouvait que c'était une drôle d'idée, mais on nous disait « c'est de même que ça marche ». Alors que les petites laiteries, c'était fait pour disparaître. Alors donc, Daniel Séguin faisait ça. On a, vous voyez la pancarte en bas, ça c'est ce que la Société de transport de l'Outaouais a mis sur les autobus. Moi, j'aimais ça. Je roulais derrière l'autobus, puis je voyais, moi, j'appuie le lait de la laiterie de l'Outaouais. Un matin, je me lève, puis j'écoutais Radio-Canada à la radio, puis il disait, ce matin, à telle heure, il y a une réunion du comité de relance. Je me disais, c'est bien, j'ai mon agenda parlant. Et d'ailleurs, ce matin-là, quand on nous avait annoncé ça, ben, on allait rencontrer une autre laiterie qui pensait produire pour nous autres. Qui disait, pour pas que vous perdiez d'espace tablette, on va produire pour vous autres, on va vendre sous votre nom, puis comme ça. Et on a eu une bonne rencontre positive, il est retourné chez eux, il a réfléchi à ça. Il y a eu un appel de notre compétiteur qui dit, chaque litre de lait que tu vas produire pour vous autres, pour eux autres, je vais venir le prendre dans ton marché. Alors, il nous a dit que ce ne serait pas possible. Mais, vous savez, probablement parce qu'on ne connaissait pas ça pantoute, et tantôt, sa photo, il y avait un autre gars qui est Georges Aymon, qui lui connaissait ça, transformer du lait. Il avait géré l'usine laitière de la laiterie des Trois-Vallées à Mont-Laurier, donc c'était son expertise. Bien, comme on ne connaissait pas ça, on l'a fait. Et on l'a fait, moi je trouvais que Claudine avait une bien bonne idée. Elle dit toujours, quand j'en parle, bien avant le Colisée de Québec, on avait organisé une pelletée de terre collective. Parce que le 12 novembre 2008, on a procédé à la pelletée de terre collective sur le site actuel de la laiterie de l'Outaouais, donc dans le parc agroalimentaire près de l'autoroute 50. Et on était fiers en Moses. Et si vous vous demandez quels étaient ceux qui ne croyaient pas au projet là, au départ, bien, ils sont tous au milieu de la photo. Ceux qui y croyaient sont des autres rangés en arrière. Ceux qui ont travaillé pour. Et notre usine a été inaugurée le 16 juin 2010, 4 ans après la fermeture de la laiterie Château. Ça a été énormément de travail, mais encore aujourd'hui, c'est un fleuron de notre économie régionale. On en est bien fiers. Quand on regarde cet accomplissement-là, moi, c'est certainement... Il y a Michel tantôt qui me disait, elle, c'est mon fan club, et elle disait, d'ailleurs... À Maxime et à moi, elle avait dit, moi, je vous suis depuis le début de la laiterie de l'Outaouais. Alors, et elle est ici ce soir pour m'entendre. Alors, merci, Michel. Je te rembourserai ton 20 $. On a beaucoup avancé. On a des gens qui ont marqué. Et après ça, toutes sortes de la scène de l'Outaouais de toutes sortes de façons. Vous voyez sur la photo, il y a Georges Aymon, qui est au nombre des personnalités de l'année de Radio-Canada Le Droit. Il était au gala lundi. On a Maxime, qui a viré pas pire comme maire de Gatineau. Il y a Claudine Lalonde, qui est devenue directrice générale adjointe de la CDR. Yannick Bouchard, qui est un travailleur de la ville de Gatineau maintenant. Guy Brousseau. Guy Brousseau, qui était le président du syndicat des travailleurs de la laiterie Château, qui a participé à cette activité-là. Et pendant la période où ça a été fermé, Guy a réalisé quelque chose d'important. Puis il m'a dit que je pouvais le dire. Il a appris à lire puis à écrire. C'était lui qui était rentré à 14 ans, fait qu'il avait lâché les études bien vite. Alors, il a appris à lire puis à écrire. Puis, depuis ce temps-là, il a travaillé à la laiterie de l'Outaouais. Et maintenant, il s'est replacé ailleurs. Et il y avait moi qui cherche encore comment qu'on a fait pour accomplir tout ça. Ça, c'est parce que vous voulez que c'est fini ou... Il me reste encore 6 minutes. Moi, je suis minuté, puis tout. Et peut-être vous dire quelques leçons que j'ai appris bien rapidement. Que j'ai appris de cette observation de l'économie-là, de cet engagement, et surtout de ce projet assez merveilleux que j'ai eu le privilège de vivre ici. Parce que ça a été une initiative qu'on a eue. Mais c'était aussi un concours de circonstances, hein, et surtout des milliers de gens qui nous ont appuyés dans un projet comme ça. Et je dirais, mon premier constat, souvent on reproche aux gens en disant « Ah, le monde ne se mobilise plus aujourd'hui ». Bien, une des observations qu'on a fait, et dans le processus, on savait hein, c'était qui notre ennemi. Et il y avait quelqu'un qui nous avait conseillé, il dit « Là, vous devriez le dénoncer ». Aller contre cet ennemi-là. Puis, on avait décidé de ne pas le faire parce que ça ne nous tentait pas. Puis, qu'on disait, si on est pour chialer pendant des mois, je pense que nous-mêmes, on va se tanner. Alors, ce qu'on a appris par ce projet-là, c'est que si on ne se mobilise plus contre quelque chose, on a pu voir que les gens étaient prêts à se mobiliser pour quelque chose. Et ça, moi, dans les projets qu'on fait, dans les coopératives qu'on appuie un peu partout dans l'Outaouais, dans les Laurentides, dans les projets que je vois partout au Québec comme président du chantier de l'économie sociale, ou dans ce que je vois quand j'ai l'occasion d'aller un peu partout en Europe et constater les progrès que l'entrepreneuriat collectif fait, bien, je remarque que les gens sont prêts à bien des sacrifices, à bien de l'énergie investie quand on la développe pour construire quelque chose. J'ai appris que l'économie sociale, c'était un puissant médicament pour lutter contre l'impuissance, que ça me permettait de me redonner du pouvoir et que ça a permis de redonner du pouvoir à bien d'autres. Si vous saviez le nombre de personnes qui ont été inspirés par l'expérience de la laiterie, pas pour faire le même projet, mais qui ont puisé une énergie dans cet exemple-là, moi, je trouve ça assez formidable. Et pour moi, de se redonner du pouvoir, c'est certainement une façon de mieux vivre et de mieux vivre ensemble. Alors, pour moi, une des grandes leçons que j'ai apprises, c'est celle-là. J'ai appris que le territoire, c'est une dimension fondamentale du développement. Je parlais tantôt avec M. Robert, puis on disait hein, « Société Gatineau-Monde ». Et puis, il y avait beaucoup de conférenciers internationaux, puis des Albert Jacquard, puis tout ça. Je disais « Mon Dieu, je suis vraiment votre dernier recours ». Il dit « Non ». Il dit « Pour nous, c'est important le local ». Et moi, je pense que plus on se mondialise, plus on se rend compte que il faut bien qu'on pose nos pieds quelque part. Et moi, je dis souvent, nous autres, nos rêves, ils touchent à terre. Ceux qui étudient, des fois, je fais des conférences à des étudiants en développement international. Je leur dis, n'oubliez pas que le développement international, c'est du développement local ailleurs. Et que ta compétence, là, ben, tu dois l'avoir pour être capable d'aider le monde autour de toi. Nous sommes Légion. Connaissez-vous ça, Anonymous? Moi, je me trouvais bien drôle de mettre ça. Claudine, elle dit, mais pas ça. Mais parce que c'est bien beau, hein? Là, pendant les dernières minutes, j'ai nourri mon ego. Je suis bien fier de la laiterie de l'Outaouais. J'étais bien fier quand Nadie de l'équipe de Gatineau Monde a envoyé un courriel puis dit « C'est d'ailleurs un peu grâce à lui qu'on peut boire le lait de la laiterie de l'Outaouais. » Et on va l'avoir pour le café tantôt. Bien, on est tellement nombreux à avoir pris cette voie-là, à s'être engagé, à avoir posé des gestes un peu partout, dans toutes sortes de secteurs. Alors, c'est pas vrai qu'on est exceptionnel. On a fait des choses qui sont exceptionnelles. Mais il y en a tellement d'autres qu'on se noie dans une foule et qu'on est effectivement légion. On est légion parce qu'il y a des gens comme Vincent, qui sont des membres d'une coopérative Desjardins, qui continuent à offrir des services financiers à des citoyens du Québec, qui est la plus grande institution financière du Québec et qui, malgré tout ce qu'on peut y reprocher, reste différent parce que c'est les seuls qui supportent des projets locaux, qui investissent dans la communauté, parce qu'il y a une ristourne qui est non seulement à l'individu, mais à la collectivité. On est légion parce qu'on a un maire qui, avant d'être maire, avait déjà travaillé pour sa communauté, parce que Maxime a été le président fondateur de la coopérative des consommateurs de la laiterie de l'Outaouais. Et je le sais parce que c'est mon meilleur ami, que ça a marqué sa vie puis que ça a changé sa vie. On le sait parce qu'il y a Anne-Marie Laurendeau. Anne-Marie, elle travaille avec les aînés et elle a son bureau à Créagora, une coopérative de coworking, mais qui crée une synergie entre des travailleurs autonomes, des petites organisations ou entreprises qui trouvent ensemble des façons d'aller plus loin puis de s'entraider. Et Anne-Marie est avec eux autres. Je le sais parce qu'il y a Ronald Maillot. Il y en a-tu qui connaissent Ronald Maillot? C'est un ami de mes parents, entre autres. Mais Ronald, c'est un bénévole important au marché de solidarité régionale de l'Outaouais qui nous permet, à ceux qui habitent en ville, d'avoir accès aux produits régionaux des producteurs de l'Outaouais. Je le sais parce qu'il y a Christine. Christine est trisomique. Christine, on l'a rencontrée il n'y a pas longtemps. On a fait un lancement de ces photos-là, justement, à la CDA. Et la mère de Christine est venue me voir en me disant, « Vous savez, le rêve de Christine, c'était d'être connue. » Puis sa mère me dit, « Je ne savais pas pourquoi on venait ici ce soir, mais pour elle, c'était bien important. » Alors, bien, Christine, maintenant, grâce à vous autres, entre autres, elle est connue. Et Christine travaille pour la coopérative de l'Unicité, qui est des serres à Buckingham, et qui fait qu'elle, plutôt que d'aller passer une journée là, à s'occuper, bien, passe une journée à servir des clients, à travailler pour produire des tomates, des poivrons et autres légumes dans les serres à Buckingham. Je le sais parce que il y a M. Dodo. Je trouvais ça drôle, M. Dodo, pour quelqu'un qu'on présente dans une coopérative d'habitation, la coopérative d'habitation Marie-Crevier. Bien, des gens qui se mobilisent ensemble pour se donner un logement, mais pas juste un toit, aussi un lieu où on peut s'entraider parce qu'on est dans une petite communauté de locataires. Tantôt, je vous parlais d'Alstom. Bien, pour moi, je le sais tout ça, que ça vaut la peine parce qu'il y a Jean-Paul. Puis que Jean-Paul, c'était un ancien travailleur d'Alstom qui a fondé avec une partie de sa gang une coopérative qui s'appelle Coop Metal Outaouais, qui fonde la soudure industrielle et mobile. Et ce Jean-Paul-là, c'est une de nos inspirations. Alors, des gens comme ça, des exemples comme ça, il y en a d'autres. Et la dernière, c'est Amélie. Amélie qui travaille à la Tierra Coop et vous allez avoir l'occasion tantôt de déguster une des choses qui font le mieux, un excellent café. C'est ça que j'ai appris, c'est ça que je voulais partager avec vous autres. Merci.